Bien, donc nous allons pouvoir démarrer cette table ronde sur le thème « Écrire des histoires, devenir écrivain professionnel ». Donc pour traiter ce sujet, j'ai avec moi, en partant, en commençant à ma droite, donc Jean-Luc Marcastel, qui a fait un bac lettres et arts, qui est aussi un petit peu illustrateur, du coup, avec cette veine artistique, et qui a fait ensuite des études d'histoire et qui a enseigné quelques années avant de passer donc complètement à l'écriture. Au départ, il y a eu toute la série de Louis Le Gallou, donc en 5 volumes, plus ensuite Prairie, Les Enfants d'Erebus, donc qui est la série la plus récente, et encore plein d'autres choses dont on pourra éventuellement parler. Samantha Bailly, qui a commencé donc l'écriture très très jeune, elle nous expliquera un petit peu son parcours, et qui pour le coup n'a pas forcément eu la question ne s'est pas forcément posé la question de savoir quel métier elle allait faire, puisque finalement elle est tombée dedans très très tôt. Évidemment, on avait remarqué son diptyque de fantasy Au-delà de l'oraison, qui a eu le prix Imaginal des lycéens en 2011. Elle publie plein d'ouvrages dans plein de styles différents. Ça peut aller de la romance paranormale, du jeunesse, du récit satirique. Elle est aussi scénariste, elle fait de la fantasy. Enfin, elle fait plein de choses. En 2013, elle était coup de cœur des Imaginales. Voilà, elle nous expliquera un petit peu son parcours. Lionel Davoust, qui lui a fait des études de... il est ingénieur à Lyon de formation. À certains moments, a travaillé en parc animal, ce qui a d'ailleurs donné lieu à une très très jolie nouvelle dans l'anto des Imaginales de l'année dernière, qui a également fait de la traduction et qui, à un moment donné, a décidé également de se consacrer totalement à l'écriture. Alors, dans le milieu littéraire, il a fait beaucoup de choses. Il a été rédacteur en chef de la revue Asphodale, donc traducteur. Il a écrit des nouvelles, des romans. Il y a son cycle Léviathan qui a été très très remarqué avec La Chute, La Nuit et le pouvoir. Il y a eu La Route de la Conquête, plus récemment Port d'âme, donc un certain nombre de choses, et on verra qu'il a d'autres activités aussi en parallèle. Et enfin, Johan Elliott, qui lui a commencé comme professeur de lettres et histoire en lycée professionnel, et qui a enseigné un certain nombre d'années. Il a publié sa première nouvelle en 1999, depuis il en a écrit une soixantaine d'autres, enfin pas mal. Son premier roman, La Lune seule le sait, avait été très remarqué et depuis, il a à peu près 35 titres à son actif, même plus maintenant, oui, en adulte, en jeunesse, touchant aussi à pas mal de domaines. C'est un passionné d'histoire, donc souvent on trouve un petit peu des choses comme ça dans son roman, il plonge aux racines de l'histoire. Et on verra qu'il a aussi d'autres activités annexes. Donc, ça vous situe un petit peu les personnages. Alors moi, je voulais commencer, attaquer cette table ronde par quelque chose que j'ai remarqué, Jean-Luc, dans ton blog. J'ai le souvenir d'un post qui s'intitulait « De la culture de la banane et de la littérature ». Et tu vas nous raconter la petite anecdote dans cette librairie où finalement tu entres dans la librairie, le libraire te reconnaît, tu discutes un petit peu avec lui, il est très content que tu écrives des livres, etc. Et à un moment donné, vient la question, et vous en vivez ? Vous n'avez pas un vrai métier ?
C'est ça, oui. J'avais été un peu choqué par justement cette question, c'est-à-dire par la banalité ou la normalité finalement de cette réflexion qui consiste à dire ou à accepter le fait que l'écriture ne peut pas être un vrai métier. Je pense que mes collègues comme moi pourront vous dire que quand on est en train de corriger nos textes à 1h du matin, qu'on a des centaines voire des milliers d'heures de boulot derrière nous, je comparais ça un peu au patinage artistique. Les gens quand ils lisent les livres, ils ont l'impression que c'était Céline qui disait... Les gens, ils arrivent, ils disent « Mais pour vous, c'est facile, vous avez un talent. » Céline disait « Mais je t'en foutrais, moi, du talent, c'est du travail, oui. » Du talent, il y a peut-être... Comme on disait, il y a peut-être les 5 ou 3% de talents qui vont faire qu'un texte va se détacher des autres textes, mais n'empêche que ce qui précède tout ça, et le texte lui-même, c'est les centaines, voire les milliers d'heures de boulot où on a passé sur ce texte, à corriger, à biffer, à revenir dessus, c'est du travail. Et donc ce qui est marrant, je comparais ça, c'était pour ça que je disais de la culture de la banane et de la littérature, que comme dans la littérature ou comme dans la culture de la banane, celui qui ne vit pas finalement du livre, c'est celui qui est un peu à la base de tout. Tout le monde vit du livre, de l'éditeur, en passant par le libraire, en passant par le diffuseur, en passant par les journalistes spécialisés dans la littérature. Et tout un petit monde, en fait, prospère autour du livre, se nourrit du livre, est salarié par le livre. Et il n'y a que l'auteur à qui on demande « Mais vous en vivez, vous n'avez pas un vrai métier à côté ?» Alors quelque part, on se dit « Mais quand même, venant dans le libraire, il est quand même gonflé. » C'est un peu comme si le primeur allait demander au petit cultivateur de bananes du, je sais pas, d'Équateur, etc. « Bah alors la banane, t'en vis ? T'as pas un autre métier à côté ?» Voilà, c'est un métier passion, donc voilà. Il y a cette idée aussi, finalement, que le travail, ça avait de Trépalium, je crois, de toute façon, le travail, c'est qui est un instrument de torture, hein, sous l'Antiquité. Il y a l'idée que le travail doit forcément être pénible. Si on a un travail passion, ben, on ne mérite pas d'être payé pour ça, quelque part. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on ne pose pas la question ni aux acteurs, ni finalement aux chanteurs, mais aux auteurs, on leur pose la question de savoir, mais vous, voilà, vous avez un vrai boulot. Est-ce qu'on poserait la question, je ne sais pas, moi, à Brel, est-ce qu'on aurait posé la question de savoir s'il n'avait pas un vrai boulot à côté ? C'est quand même curieux.
Et alors justement, pour ces tranches de vie et les réactions des gens à ce métier que vous exercez, on peut également citer donc, l'excellente vidéo réalisée donc, par Samantha, donc, qui a depuis quelque temps créé une chaîne YouTube sous l'intitulé Vie d'auteur et sur laquelle elle dépose des petites vidéos de format aux alentours de 6 minutes. C'est très vite fait à regarder, c'est très amusant parce que du coup on trouve des tas de tranches de vie. Et donc, on peut citer cette petite vidéo intitulée « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» où effectivement, on se rend compte à travers les différents, et tu pourras nous décrire les différentes réactions auxquelles tu as pu être confronté, que ce métier d'auteur va cristalliser finalement des fantasmes, des projections qui en fait n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette petite vidéo ?
Tout à fait. En fait, le but de cette chaîne, c'est qu'à force de faire des salons et d'emmagasiner un certain nombre d'anecdotes et d'avoir ce regard-là sur le monde, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, il y avait aussi peu d'informations et une grande opacité sur ce qu'était le métier d'écrivain et sur l'écriture et un peu l'univers de l'édition, comment se répartissent en fait les choses entre l'éditeur, le libraire, le diffuseur, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai un lectorat qui va, on va dire, de jeunesse à des personnes plus adultes. Et sur YouTube, c'est quand même en plus une tranche d'âge aux alentours de 15 ans plus et même moins. Donc je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire un peu de pédagogie de manière drôle en expliquant en fait ce que c'est que ce métier, en relatant quelque part un peu mon vécu. Donc la vidéo « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», c'est la typologie des réactions quand bah, forcément on se retrouve à une soirée à un moment donné, on discute avec quelqu'un et vient cette question fatidique, hein, celle un peu artificielle qu'on pose tout le temps, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?». Donc quand je dis que je suis auteur, en général j'ai « Ah bon, bon, tu as un vrai métier à côté ?» Ou alors j'ai le négatif qui me dit « Mais t'as pas peur parce que... » L'échec, enfin, tu sais, tous ces gens dépressifs, alcooliques, drogués. Ok, donc déjà, voilà. Ou quand je dis, bah non, je m'en sors quand même, là, ça fait des années. Ouais, mais un jour, tu n'auras plus l'inspiration et enfin, qu'est-ce que tu feras ? Enfin, bon, bref, que des trucs horribles comme ça. Et le pire, je pense que les personnes ne pensent pas à mal. C'est toute une espèce de mythologie qu'on se fait autour de l'auteur maudit, etc. L'opportuniste, c'est « Ah bah moi, j'ai un cousin qui écrit, bah écoute, bon, là, il aimerait bien envoyer son manuscrit, donc t'as forcément des pistons, parce qu'on sait bien de toute façon que ça marche que comme ça. Hein. » Et je dis « Ah bon, mais il a écrit quoi ? Bon, il en est au troisième chapitre de son roman, mais ça va arriver, là, franchement, il se débrouille bien. Donne-moi le nom de ton éditeur, fais passer ça, etc. » Le dragueur, alors ça, c'est le côté marrant de les auteurs. Non, mais les auteurs doivent vivre des choses un peu intenses. Je pense que l'inspiration peut se trouver aussi dans des choses un peu plus intéressante entre nous, enfin bon, bref, toute cette panel de réactions. Et du coup, je me suis bien amusée. Le pire, c'est que ce n'est pas caricaturé, c'est parfois difficile à croire, mais il y a, voilà, c'est ce décalage entre les fantasmes et la réalité, alors que la réalité de ma vie telle qu'elle est, c'est que, bon, en effet, j'ai 27 ans, j'ai eu la chance de commencer à vivre de ma plume, mais à survivre de ma plume. J'ai vécu à Paris avec à peine un SMIC pendant là 4 ans, et j'ai galéré comme pas possible en ayant publié 13 romans. Donc évidemment qu'il y a des peurs, il y a des craintes parce que c'est un métier risqué, mais on est très loin aussi de ce qu'on peut imaginer de l'auteur riche et célèbre ou de l'auteur voilà.
Il y a les deux fantasmes. Alors, soit les qui disent on est vraiment des minables parce qu'on gagne vraiment absolument rien, ou alors d'autres qui se disent oh, vous êtes auteur, vous avez gagné des fortunes quoi.
Et ce que je préfère, c'est sur l'inspiration aussi, c'est bon bah je pense que cette conversation va sûrement te donner une idée pour un roman. J'espère que j'aurai des royalties.
Il y en a pas qui demandent d'écrire leur biographie. Moi j'en ai plein qui veulent que j'écrive leur vie passionnante. Hein, j'ai une vie passionnante, voilà. Je voudrais pas l'écrire. Il y en a un qui me court après comme ça depuis des mois, je l'évite, tu sais.
Oui, voilà. Bon.
Alors Lionel, toi aussi, tu avais une petite anecdote croustillante
Oui, bah, c'est des trucs qui reviennent fréquemment, mais qui juste du coup témoignent de l'opacité, c'est que de nos métiers, c'est que ça arrive de temps en temps où les gens découvrent les bouquins, etc., sont des connaissances de loin, puis qu'à un moment prennent entre quatre yeux et font non, mais je pense que je sais ce qu'il faudrait pour ta carrière et tes bouquins, parce que j'ai lu quelques passages et t'as quand même une écriture très visuelle. Tu devrais faire un film. Ah ouais, t'as 20 millions de dollars. Ce genre de choses, ou alors le truc effectivement qui est un peu dans le même ordre d'idée, c'est alors j'ai une super idée, j'ai fait un rêve cette nuit, je te le donne, ça me fait plaisir, tu peux en faire un bouquin. Ouais, mais enfin c'est ton idée, c'est pas la mienne, écris-la toi quoi. Enfin, donc non, mais ça témoigne vraiment de l'opacité du métier. C'est aussi pour ça, moi, enfin à côté, ça fait partie. Enfin, il y a un truc, une règle à laquelle je crois profondément dans ces métiers-là, qui est en anglais, ça se dit you can never pay back, you can only pay forward. C'est-à-dire qu'on peut jamais, en fait, il y a souvent des gens qui sont des facilitateurs, qui un peu nous mettent le pied à l'étrier, nous donnent notre première chance en édition, publient une nouvelle ou acceptent de lire des manuscrits, etc. C'est des gens, on aimerait bien pouvoir leur rendre l'appareil, mais quelque part, comme ils sont plus âgés, probablement plus installés, on peut pas jamais leur rendre l'appareil. Ce qu'on peut faire, et qui à mon avis est une bonne chose, c'est on peut essayer par contre d'essayer de faire pareil pour les gens qui viennent après nous. Et c'est pour ça que voilà, c'est aussi cette opacité des métiers, pour ça que je passe un temps probablement, enfin ma danseuse c'est mon blog, où j'en retire rien à part le fait que j'essaie justement d'un peu lever le voile et de donner un peu des infos, des tuyaux sur la narration, sur le métier, en fait faire ce que j'aurais aimé trouver moi quand j'ai commencé quoi.
Johan, pour parler un petit peu de ta vie, donc à une époque, tu es enseignant. Bon, alors enseignant, titulaire, travaille en lycée, ça suppose souvent un plan de carrière, quelque chose où on a une certaine stabilité. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui passent les concours et qui deviennent enseignants pour dire voilà, ça y est, maintenant je suis posé. Et puis, il y a une certaine sécurité, quelque part. Quand même, le salaire tombe tous les mois. On sait qu'en plus, étant fonctionnaire, on n'est pas soumis aux aléas, en tout cas un peu moins que le salarié qui travaille dans une entreprise qui peut faire faillite, etc. Et alors, du coup, décider d'abandonner ce métier d'enseignant pour aller vers la carrière d'écrivain, à quel moment s'est fait le déclic chez toi? Pourquoi et comment tu as pu prendre cette décision-là et qu'est-ce que ça a amené derrière?
Voilà. Alors d'abord une première précision, c'est un petit peu par hasard moi que je suis devenu prof, hein, puisque quand j'étais étudiant, j'ai fait des études d'histoire comme mon camarade, parce que j'aimais l'histoire, mais après, je me suis très vite rendu compte que ça menait, dans 99% des cas, à l'enseignement, j'ai dit, pourquoi pas, mais j'avais aucun plan de carrière, hein. Soyons clairs. Ensuite, comment s'est fait le passage? Alors, d'abord, je tiens aussi à préciser, je suis toujours statutairement prof, moi je suis en disponibilité de l'éducation nationale depuis 13 ans maintenant. D'accord. Donc, si un jour il me venait cette idée complètement incongrue de reprendre le métier, mais non, à laquelle je ne pense jamais en me levant le matin, j'en aurais toujours la possibilité de me retrouver un jour devant élève. Comment ça s'est fait? En fait, j'ai enseigné que 5 ans. Quand j'ai commencé à enseigner, j'écrivais déjà. Et j'écrivais pendant les vacances scolaires, ce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est quand même un métier de feignant, on a énormément de vacances, c'est une réalité. Donc j'écrivais un livre, un livre pour adultes, entre guillemets. Enfin, mes premiers bouquins de SF, La Lune seule le sait et autres, étaient publiés dans les collections dites adultes. Et moi j'envisageais à aucun moment d'écrire pour la jeunesse, je n'y pensais pas, c'était un secteur que je ne connaissais pas du tout. Et puis j'ai eu la chance que mes livres pour adultes ayant eu un certain écho, ils ont plu à un certain directeur de collection de science-fiction jeunesse, Denis Guillot, pour ne pas le nommer, bon, si quand même. Et c'est lui qui m'a fait du pied pour me dire, il faut que tu écrives aussi pour la jeunesse. Ça s'est fait assez difficilement parce que j'ai mis du temps avant de lui soumettre quelque chose qui lui plaisait vraiment. Mais quand ça s'est fait, les projets jeunesse se sont multipliés, les projets adultes continuaient à être là. Bref, j'avais plus assez de temps pour moi pour être à la fois prof et à la fois écrire tout ce que je voulais écrire. Donc je me suis mis en disponibilité de mon métier, tout simplement. Voilà. Donc tout ça s'est fait, il a fallu quelques années, il a fallu des rencontres, il y a une part de hasard, une part, ou appelons ça la chance si on veut, et c'est tout ça cumulé qui fait que c'est devenu possible. Mais j'ai jamais eu de plan de carrière qui aurait fait que je me suis dit un jour je vais faire ça, ou j'avais même jamais rêvé, depuis tout gamin ou plus adulte, d'en faire un jour mon activité unique, mon métier. Ça s'est fait, voilà, j'ai eu la chance que ça... ça s'est fait. Et je vais maintenant rebondir sur ce que disaient tous mes petits camarades jusqu'à présent sur la dure réalité du métier. Il y a une formule que j'aime beaucoup, mais qui a été citée par quelqu'un dont j'oublie toujours, hélas, le nom. Peut-être que vous le reconnaîtrez. Notre métier, en fait, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Voilà, il faut être conscient de ça. Et c'est que ça, voilà. Et une autre personne, là, je sais qui c'est Stephen King, qui a dit une belle citation que j'essaie de placer un petit peu partout, parce qu'à mon sens, elle résume beaucoup, beaucoup les choses. Stephen King a écrit un jour, je crois que c'était dans son livre Écriture, que je conseille aux gens qui veulent écrire, lisez Écriture de Stephen King, c'est une Bible. Et je crois que c'est dans ce bouquin-là qu'il dit à un moment, le véritable talent, c'est la persévérance. Ce que je crois à 150%.
Il dit, il faut écrire tous les jours, même si on a l'impression de péter de la merde. Parce qu'il ne faut pas que l'outil... Moi, je sais qu'il ne faut pas que l'outil se rouille. Moi, si j'arrête d'écrire pendant un certain temps, quand on s'y remet, il faut remettre tout cerveau dans le bon... C'est comme, les vacances. Tu arrêtes 2 mois de bosser.
C'est ça.
Tu vois, puis si tu as du mal à t'y remettre. Tandis que si on écrit tous les jours, on ne se pose pas la question. Ce n'est pas forcément bon. On va peut-être jeter tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas grave, mais on écrit quand même.
Exactement.
Alors justement, ça fait une excellente transition. J'avais envie de vous demander à tous les quatre quelle est votre façon de travailler, parce que bien souvent, quand on discute avec des écrivains, on se rend compte, comme tu le disais, que c'est pas j'écris juste comme ça une fois de temps en temps. C'est un petit peu comme la personne qui va au travail. On se met à sa table. C'est un peu.
Moi, je sais que souvent les gens ils disent mais l'inspiration elle vous vient. Mais je dis mais si on attend que l'inspiration elle vienne, c'est bon, on peut attendre longtemps. Hein. Ah, il fait beau. Oh, bon, non, là, je vais aller faire les champignons. Là. Aujourd'hui, tiens, il y a autre chose à faire. Il y a toujours autre chose à faire que de travailler. L'être humain est feignant comme une couleuvre. Si on ne se donne pas un peu des cadres, si on ne se dit pas, tiens, à telle heure, je m'y mets. Moi, je sais pas, moi, tous les jours, je me dis, à telle heure, à partir de, moi, j'amène mon fils au lycée. Après, je rentre chez moi, je me mets au travail jusqu'à midi, je fais une petite pause d'une heure, je recommence l'après-midi, et puis voilà, j'arrête vers 4h, 5h, et je reprends le soir après, vers 10h, jusqu'à 1h du matin, à peu près. Et ça, tous les jours.
Ouais. Est-ce que vous avez à peu près les mêmes rythmes ?
Alors, peut-être pas tout à fait, mais la première chose que j'ai réalisée, et très vite, donc quand je n'ai fait plus que ça, c'est qu'il fallait s'imposer une discipline, et étant par nature, effectivement, plutôt fainéant, c'était dur au début. Alors, j'ai expérimenté, moi, un petit peu tous les moments de la journée, et de la soirée, et de la nuit, avant de trouver ceux pour lesquels, je dirais, mon cerveau était plus, était plus opérationnel, et je me suis très vite rendu compte, par exemple, que tout ce que j'écrivais le matin ne me plaisait jamais, était pas bon, il finit toujours à la poubelle. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'écris l'après-midi et le soir jusqu'à quelques fois jusqu'à, je ne sais pas, 1h, 2h du matin, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai découvert
écrire le soir.
Mais j'ai découvert que ce rythme-là me fonctionnait. Mais alors après, peut-être qu'ensuite, ça... Et ça évolue aussi. Mais je pense qu'il faut, il faut découvrir ses rythmes personnels et puis trouver le moyen de s'adapter. Parce que la chance qu'on a, c'est qu'évidemment, on n'a pas d'horaire. Alors, on peut avoir une fille de famille avec ses impératifs à côté. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir jongler avec ça. J'ai la chance, si je puis dire, moi-même, elle est assez limitée, ma vie de famille, donc j'ai pas de soucis de ce côté-là. Mais voilà, on est son propre patron, donc il faut découvrir son rythme, ses horaires et son... comment je dirais ça ? Sa capacité maximum de production. Ça fait un petit peu comme ça, très, très pragmatique de dire ça, mais voilà, je sais maintenant depuis un moment ce que je suis capable, le nombre de pages que je suis capable d'écrire, disons, par semaine, et voilà, j'essaie de m'y tenir, voilà, tout simplement. Alors, avec des aléas parfois, mais enfin, globalement, sur la moyenne, voilà. Et une fois qu'on se connaît, qu'on sait ce dont on est capable, eh bien, il faut essayer de s'y tenir avec cette discipline, mais qui est celle de tout travail libéral, en fait.
Non, moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qui a été dit, notamment sur la discipline. Il y a aussi Elisabeth George dans un bon bouquin d'écriture qui s'appelle Right Away, en anglais, magnifiquement traduit par Mes secrets d'écrivain, qui dit, en fait, il faut 3 qualités pour être écrivain, mais il n'y en a qu'une seule qui est indispensable, c'est la discipline. Elle dit, vous pouvez avoir le talent et la patience, c'est bien, mais si vous avez le talent sans la discipline ou la passion sans la discipline, si vous avez les 3, vous êtes béni des dieux. Mais elle dit finalement, les meilleurs écrivains sont ceux qui ont la meilleure colle sur la chaise. Moi j'ai un peu, je crois que j'ai dû être croisé probablement dans ma matrimoine génétique avec un chaton, parce que j'aime bien tous les trucs qui brillent. Donc le matin, genre, internet c'est terrible parce que ça offre tout un tas de trucs qui brillent, et puis il faut s'occuper des trucs, il faut répondre aux mails, et puis il y a machin, il faut tenir à jour blog, communauté et tout, etc. Donc j'ai, puis comme aussi avec mes gènes de chaton, le matin c'est pas mon moment. Donc, en général, j'écris l'après-midi. Le matin, j'ai tendance plutôt à le passer à, entre guillemets, faire l'écrivain, c'est-à-dire répondre aux entretiens, répondre aux mails, gérer les trucs pour les salons et tout, etc. Toute la logistique qui va avec, qui est aussi un truc qu'on n'imagine pas en termes de temps et de, d'énergie que ça peut prendre, ce qui me permet à peu près de me réveiller. Donc vers 14h du matin, là, je peux travailler mon véritable, attaquer mon vrai boulot. Et là, je me mets à écrire, et avec deux impératifs. Un impératif de volume, qui est à peu près 15-20 000 signes dans la journée, qui est à peu près le rythme que je sais que je peux faire en rythme de croisière. Donc ça doit correspondre à, je sais pas, 7 à 10 pages à peu près. Et le deuxième, c'est un impératif de vitesse, qui est que je m'astreins à faire, si je fais moins de 3000 signes par heure, c'est que je réfléchis trop. Et j'ai tendance à trop réfléchir de manière générale dans la vie et tout. Et je sais que si je réfléchis trop, je tergiverse et je me coupe de l'élan qui doit quand même être celui qu'on a quand on fait un premier jet. Le moment d'être cérébral, c'est quand on retravaille et quand on critique. Pour moi, le truc le plus important, c'est terminer le premier jet, et pour ça il faut que j'aille vite, sinon je me mets à douter, à me dire, ah mon Dieu, est-ce que finalement tout cela n'est-il pas extrêmement vain, ne devrais-je pas plutôt avoir un vrai métier, justement cultiver des bananes ou un truc comme
être
ça,
être productif,
voilà, ouais. Et donc c'est voilà. Mais ça, encore une fois, ça c'est vraiment un truc que je répète fréquemment en masterclass, en atelier d'écriture. Apprendre à écrire, c'est apprendre à se connaître. Je sais que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il y a des auteurs, ils ont besoin que chaque phrase, elle soit parfaitement ciselée, ils n'y reviennent pas. Chacun sa façon de fonctionner, quoi. Le truc qui est le plus important, c'est savoir comment on marche.
C'est très, je trouve ça génial ce que tu dis justement sur cet apprivoisement de soi-même, puisque les gens sont souvent en recherche de conseils d'écriture, un peu comme s'il y avait une recette magique soudain. Et moi, la chose que j'ai appris, parce que bon, j'ai quand même publié pas mal de romans, et quand j'ai commencé à en vivre, je suis rentrée dans une problématique que vous devez bien connaître, qui est, bon, déjà pour revenir au rapport à l'écriture, parce que c'est assez intéressant de voir comment ça s'articule, dans mon cas, c'est quelque chose de très viscéral. Depuis que je suis petite, je sais que je veux faire ça, tout simplement parce que je le fais tout le temps. C'est quelque chose d'assez naturel, dans le sens où tout ce que je vis, bah, ça passe un peu par l'alambic de l'écriture, je le retranscris. Dans mon parcours, j'étais en master en littérature, puisque je voulais gagner du temps pour dire à mes parents, oui, vous inquiétez pas, je vais faire un vrai métier, au pire, je ferai prof. Et en fait, ma stratégie, parce que j'avais quand même un plan, c'était de publier mon premier roman durant mes études, ce que j'ai réussi à faire dans une petite maison d'édition, et c'était Oraison. Et ensuite, j'ai eu le moment où j'ai vu tous mes amis passer le CAPES et la GREG, et j'ai eu une crise de panique. J'ai plaqué mon mec, je suis partie de Caen pour débarquer à Paris sans rien, pour faire un stage dans le jeu vidéo chez Ubisoft, donc vous imaginez un peu le truc, quoi. Et du coup, bah, j'ai quand même travaillé 2 ans chez Ubisoft, c'était passionnant, et j'ai fait de la communication et du marketing, alors que je venais de l'être, enfin, c'était complètement aux antipodes. Et je me suis presque rendu compte que c'était un danger de ne pas être trop mauvaise dans ce métier-là, parce que je commençais à être un peu aspirée, en fait, par cette vie d'entreprise, jusqu'à me rendre compte que tout ce qui m'intéressait, en fait, c'était de parler de ce que je venais de vivre et d'en faire un roman qui s'appelle Les Stagiaires. Donc, il y a une espèce de mécanisme interne. Mais le moment où on se dit, ça y est, je réalise, entre guillemets, mon rêve, qui est souvent très idéalisé, en fait, quand on a eu ça, quand on est jeune, hein, on se dit, on a une vision de la chose. Et en fait, bah, j'ai beaucoup écrit, j'avais des choses, plein de choses à dire. Et ça, j'ai jamais manqué de choses à dire. Et j'ai toujours essayé d'être très perfectionniste en même temps que d'écrire beaucoup, avec cette autodiscipline dont vous parliez tous. Mais par contre, j'ai eu un moment d'essoufflement, en fait, d'épuisement vraiment profond, où je me suis rendu compte que bah, forcément, je me retrouvais dans un système où malgré tout, pour en vivre, il fallait écrire un certain nombre de livres, ou alors que ça marche bien, forcément. Et je me suis aussi rendu compte petit à petit que le rapport au temps était assez complexe. En fait, on était entre deux vitesses, entre le monde de l'édition qui demande aux auteurs bah, toujours plus parce qu'il y a des calendriers, etc. Et puis la vie intérieure de l'auteur, et apprendre parfois à avoir une certaine patience, revenir sur l'ouvrage, peut-être attendre un certain temps. Et du coup, ça a été un vrai apprivoisement de cette créativité, puisqu'il y a des moments où j'écris tous les jours, mais il y a des périodes où je ne peux plus, en fait. Je suis comme tarie. Et du coup, pendant plusieurs mois... Je fais d'autres choses. Bah là, je fais mes vidéos, par exemple, en attendant. Ou alors, comme j'ai le travail de romancière, mais je suis aussi scénariste pour le cinéma et pour le manga, j'essaye de souffler, en fait, à travers ces différentes formes d'écriture. Parce que, quoi qu'il arrive, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être nourri en nous. Et l'inspiration, bien sûr, elle ne vient pas comme ça à un moment donné. Mais je pense qu'elle est quand même là de terrain d'observation. Pour moi, être auteur, c'est un peu avoir des antennes déployées en permanence sur le monde et on absorbe comme ça plein de choses.
Alors, c'est marrant parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil. J'avais commencé à écrire quand j'avais 9 ans. Et à partir de 11 ans, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus grand, je veux faire écrivain. Et ça m'a pas quitté. Alors pareil, moi j'ai fait prof un petit peu comme ça, là, quelques années, tu vois, parce qu'il fallait bien faire bouillir la marmite, quoi. Donc mais parce qu'en plus c'était un métier quand même. Comme je faisais prof d'histoire, je racontais quand même des histoires, même si c'était pas mes histoires à moi, je racontais quand même l'histoire. Donc mais c'était vraiment, c'était pas une souffrance d'aller en cours parce que j'aimais bien ça, mais c'était une souffrance parce que ça me prenait du temps sur l'écriture, parce que ce que j'aimais faire, c'était l'écriture. Jusqu'au moment où je me suis dit, là je fais plus que ça, quoi. Voilà.
Alors là, on était sur justement la phase de créativité, le moment où vous écrivez, vous couchez des choses sur le papier. Et ensuite, si on élargit un peu, il va y avoir un premier interlocuteur qui est l'éditeur. Et il va y avoir là, des exigences sur le livre. On va demander un retravail. Et la chose que vous avez écrite va peut-être parfois vous échapper un peu. Puisque, alors, il y avait une anecdote excellente dont tu m'avais parlé sur ton premier éditeur.
Alors, mon premier texte, ma toute première nouvelle, moi j'ai bassiné. Dès que j'ai découvert la chose écrite quand j'étais vraiment tout môme, je me suis dit, putain, mais c'est génial, on peut laisser un message à quelqu'un, il va le recevoir même si on n'est pas là. Du coup, j'étais petit, hein, je précise, ça m'est pas venu à 20 ans. J'ai bassiné ma mère pour apprendre à écrire et à lire avant là. J'ai écrit ma première nouvelle à 6 ans. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec le monde de l'édition. Qui est que j'ai fait donc lire ça à mon premier éditeur, qui était ma maman. Donc, c'est une histoire de capitaine. Il y avait déjà des comme quoi on se refait pas, il y avait déjà des bateaux, de la mer et tout, etc. Donc, c'est une histoire de loup solitaire sur son bateau qui allait sauver une princesse sur une île, bref. Et ça se terminait, le personnage était un loup solitaire, donc les deux, le mec et la fille, disaient à la fin de la nouvelle, bon, adieu, quoi. Et donc, je fais lire ça à ma maman, donc du haut de mes 6 ans, qui me regarde et qui me dit... Ah, ils se marient pas à la fin, mais moi j'aime bien quand les gens ils se marient à la fin. Donc moi j'étais totalement tiraillé entre mon impulsion d'écrivain, n'est-ce pas, avec le personnage qui était un loup solitaire, qui était mon impulsion première de créateur, et le retour de mon éditeur, hein, de ma mère du haut de mes 6 ans. Donc j'ai pris le truc, j'ai fait comment faire. Donc le truc est devenu à la fin, donc il se disait adieu, et sa dernière phrase, j'ai altéré ma dernière ligne de dialogue, le capitaine disait adieu, je vous épouserai plus tard.
Alors voilà, c'est très très parlant, mais alors justement, comment ça se passe? Parce que ça, souvent, c'est une phase que le public connaît mal, cette phase justement de retravail, de discussion avec l'éditeur, ou voire même aussi l'intervention de l'éditeur, comme tu le disais tout à l'heure, quand l'éditeur te dit, comme Denis Guillot à une époque, t'avais dit, il faut que t'écrives du jeunesse, ça peut être bien, donc la façon dont l'éditeur peut orienter finalement le travail de...
Enfin, je dirais tout simplement, ça dépend de l'éditeur, puisque bon, j'ai une certaine expérience et j'en ai usé un certain nombre dans pas mal de maisons. J'ai connu un peu tous les cas de figure, des plus exigeants qui vont annoter. Alors, ils vous renvoient un manuscrit annoté, mais vous n'avez plus aucun espace blanc sur la marge et dans les interlignes, parce qu'il y a des notes, prises de notes partout. Des remarques, c'est le cas exemple de Denis Guillaume, mais qui m'a beaucoup appris, puisque c'est avec lui quelque part que j'ai appris à écrire des romans jeunesse, et donc pour ça je lui suis vraiment reconnaissant. Il m'a fait énormément travailler, et tant qu'il n'est pas lui satisfait à 150% du texte, il va y revenir. Je dirais ça c'est le cas extrême. Puis d'un autre côté, à l'autre extrême, bon là je vais pas citer de nom, certains éditeurs ou directeurs, directrices de collection demandent quasiment rien, ce qui quelque part, j'apprécie parce que j'ai pas de boulot à faire, mais je sais que c'est pas forcément normal non plus, parce qu'on livre jamais quelque chose d'absolument parfait. Enfin, d'ailleurs, même au final, ça ne l'est jamais. Mais enfin, on peut toujours effectivement améliorer ce qu'on a produit au début tout seul dans notre coin. Tous les cas de figure existent. Alors, bon, moi, mon parti pris, c'est de m'y adapter. Je dirais, voilà. Après, bien sûr, quand je ne suis pas d'accord avec ce qui est demandé, on discute. C'est un échange. C'est toujours un échange, un dialogue. Certains sont peut-être un petit peu plus fermés à la discussion que d'autres. Ça arrive aussi, soyons honnêtes. Auquel cas, bon, je ne suis jamais fâché non plus avec un, ça peut arriver, mais voilà, je ne suis jamais arrivé au point où je vais dire non, je vais rompre la négociation parce que ce n'est pas possible de travailler avec ces gens-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et petite anecdote, Parce que souvent, alors quand on écrit, enfin, surtout pour la jeunesse, la question qui revient souvent, c'est mais alors, il doit y avoir des choses qu'on n'a pas le droit de dire pour la jeunesse. Enfin, là, les éditeurs doivent vous dire non, il faut pas mettre ça parce que c'est des jeunes, attention, il faut les préserver. Bon, moi, je tiens à dire que d'abord, non, ça, j'ai jamais connu ça. On peut parler de toute chose complexe, difficile, etc. Le tout, c'est de savoir comment en parler. Le seul cas de... Alors, je ne vais pas dire de censure, c'est exagéré, mais le seul cas où on m'a demandé de vraiment changer quelque chose parce que ça s'adressait à des ados, et puis les personnages, enfin, dans un de mes bouquins, un thriller jeunesse, il y a deux héros qui ont 15-16 ans, et tout au long de leurs aventures, ils boivent du café régulièrement, ils petit-déjeunent, ils sont devant un distributeur, ils se servent un café, et là, le directeur de collection m'a dit, mais... Quand même, à cet âge-là, je trouve qu'ils boivent beaucoup de café, ce serait peut-être mieux qu'ils boivent du chocolat. J'ai dit, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, j'ai donc remplacé café par chocolat chaud. À la fin du livre, enfin, quand même, l'un des deux jeunes trouve un revolver, tire sur quelqu'un là-bas, ce qui n'a posé aucun souci, par exemple. Bon, c'était justifié dans l'histoire, mais voilà. Mais en revanche, voilà, il n'était pas drogué à la caféine. Voilà, mon personnage. Voilà, non, pour vous dire. C'est le seul cas vraiment où on Sinon, on peut vraiment, on est libre d'écrire ce qu'on veut. Après, effectivement, on peut discuter de la façon dont on l'écrit, évidemment.
Oui. Est-ce que d'autres veulent intervenir sur ce...
Moi, je sais. Alors, ça dépend. Voilà, c'est ce que tu disais. Ça dépend vraiment des éditeurs. Il y a des éditeurs avec qui ça se passe très bien. C'est un long fleuve tranquille. Tu vois, il n'y a aucun problème. Et puis, il y en a d'autres. Il y a des éditeurs qui sont très interventionnistes, qui veulent vraiment mettre le doigt dans le livre. Et des fois, moi, où ça me gêne, c'est sur la forme, tout ça, on me dit un chapitre qui fonctionne mieux comme ça, etc. Pas de problème. Mais si on commence à dire, oh, moi, tel personnage, je verrais plus qu'il fasse comme ça ou comme ça. Quand il rentre dans le fond du livre, je dis, non, ce personnage-là, il ne fera pas ça. Parce que d'abord, moi, je peux te dire ce qu'il fait. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. J'ai envie qu'il réagisse comme ça. Si je l'ai fait, je ne me suis pas trompé. C'est pas ce que je sens, ce personnage comme ça. C'est mon personnage, c'est mon histoire. Et je veux l'amener d'un point A à un point Z, hein, de cette manière-là. Là, ça devient plus gênant. Alors, des fois, je sais que certains éditeurs ou directeurs de collection qui sont eux-mêmes auteurs ont des fois tendance à vouloir raconter leur propre histoire à travers. Et des fois, ça nous agace parce qu'on sent à ce moment-là qu'il y a une envie ou un besoin de se glisser à l'intérieur. Et là, ça devient compliqué. Si moi, j'ai une anecdote marrante avec un éditeur, il m'était arrivé quelque chose. Où c'était pour ma série Le Simulacre, qui se déroule dans un 18e siècle alternatif où des extraterrestres ont attaqué la Terre, enfin avec D'Artagnan, où je reprends le personnage de D'Artagnan. Et en fait, par exemple, je l'envoie chez un éditeur qui me dit, ah, bah, c'est super, c'est génial, on va le publier. Bon, d'accord, super. Puis qui me dit après, bon, alors par contre, alors le fait que ce soit des extraterrestres, c'est un peu embêtant, il faudrait que ce soit plutôt des créatures de fantasy, parce que la fantasy, ça marche mieux en ce moment. Je dis, bon, écoute, c'est de l'emballage, si tu veux, on dit qu'ils viennent d'une autre dimension, après tout, je m'en fiche, c'est pas. Bon, ça va pas changer grand-chose sur le fond, quoi. D'accord. Puis qui revient vers moi après ça une autre fois, puis il me dit, bah, alors écoute, par contre, c'est un peu embêtant, parce que j'ai mes éditeurs, enfin ceux qui sont au-dessus, hein, tu vois, qui disent, voilà, le côté historique, ça les gêne un peu, il faudrait que ça se passe dans un univers de fantasy, il faudrait plus faire historique. Alors je dis, attends, les trois mousquetaires avec D'Artagnan, on enlève donc les extraterrestres, ok, puis on enlève après ça D'Artagnan, il reste quoi finalement de l'histoire? Je dis, non, c'est pas possible, c'est juste pas possible.
Là-dessus, donc moi j'ai démarré tôt, j'ai signé mon premier contrat d'édition quand j'avais 18 ans, donc c'est-à-dire que j'avais 18 ans quand je travaillais, c'était une petite maison d'édition où les correcteurs étaient bénévoles, et souvent il y a aussi le problème du bénévolat où il y a une espèce de frustration des personnes en fait, de donner aussi beaucoup de leur temps gratuitement. Et bon, c'était assez compliqué, c'était aussi une personne qui écrivait, donc je pense qu'il y avait de ça, qui était, alors c'était au-delà de l'interventionniste, hein, c'est qu'elle avait coupé le tiers de mon bouquin à peu près, donc voilà. Donc en fait, c'était hyper douloureux parce que ça a été une espèce de combat dans lequel je n'étais pas du tout armée, parce que quand on est jeune comme ça, en plus, on est très à l'écoute des conseils. Et dans mon cas, j'ai toujours eu cette espèce de côté... pas d'écouter la parole de l'éditeur comme parole d'or, mais en tout cas de me dire, bon, ok, je suis prête à détruire des choses et à me remettre en question. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, il fallait vraiment trouver un juste milieu et que bah, c'est très bien d'être ouvert à la critique, c'est très bien de s'en remettre en question, mais il faut une espèce de solidité interne parce que, au fond, l'image que j'utilise, c'est que c'est un peu comme si on était sur un bateau et qu'on est capitaine à bord, et on peut certes avoir l'éditeur à côté avec sa boussole qui nous aide à naviguer et à trouver le meilleur chemin pour atteindre la destination, mais on est les seuls à savoir où on va, en fait. Et ça, ça ne change pas. Cette connaissance, il n'y a que nous qui l'avons. Et sur l'édition, alors ce que j'ai mis un peu de temps à comprendre aussi au fur et à mesure, c'est que, bon, déjà, il y a tout un tas d'éditeurs, hein. Il faut bien le dire, là, vous en avez déjà fait une peinture assez, assez variée, puisqu'une maison d'édition et le travail de correction reflètent souvent la personnalité et les goûts de l'éditeur. Moi, j'ai eu le cas avec Souvenir perdu, donc, qui est paru chez Syros. Il avait été en lecture chez un autre de mes éditeurs, et l'éditrice m'a dit, voilà, 4 points de vue, je n'y crois pas, c'est trop de personnages, enfin, elle m'avait vraiment démoli le truc. Et bah, d'ailleurs, j'avais travaillé avec Denis sur Souvenir perdu, ça s'était d'ailleurs très bien passé. Et du coup, il y a aussi ce côté-là où un éditeur, malgré tout, il y a une subjectivité qui est évidente. Et la seconde chose, c'est que l'éditeur, beaucoup et de plus en plus, je trouve, commence à avoir de moins en moins la double casquette édition commerciale. C'est-à-dire que je trouve que de plus en plus, l'édition bascule vers l'éditeur finalement est là pour vendre et il fait de moins en moins le travail d'accompagnement, je trouve. C'est-à-dire que c'est plutôt c'est exactement ce que tu décris. Hein. Moi, j'ai eu le cas dans beaucoup de... Enfin, j'ai toujours... Alors, bizarrement, je n'ai pas l'air comme ça, mais en fait, j'étais assez rebelle, dans le fond, parce que je n'ai jamais accepté, finalement, de commandes. J'ai fait ça une fois pour un thriller, justement. Et j'arrive pas. Et en fait, même quand on me demande de modifier, je préfère argumenter pendant des heures et peut-être me...
Si, ou alors carrément, qu'on te dise, moi, je veux un livre de commandes, je veux qu'il y ait ça dedans. Je dis, est-ce que je peux faire une recette avec ça? Tu me donnes les ingrédients, je fais la recette,
exactement.
Mais qu'on prenne pas un de mes livres et qu'on dit il faudrait que tu mettes ci, tu mettes ci, tu mettes ça.
Oui, non, mais c'est impossible. Voilà, ça, non. Oh là là, non. Donc c'est voilà, j'ai eu pas mal de cas. Bah, j'ai fait les stagiaires chez Milady, ce qui n'était pas forcément à la bonne place, mais parce que voilà, quand Brajo m'a dit qu'est-ce que tu as envie d'écrire maintenant, j'ai dit un livre sur les stagiaires. Donc je pense qu'ils étaient un peu embêtés, mais voilà, ça c'est intemporel. Mais je trouve ça intéressant cette dimension de l'éditeur entre le commercial et l'édition, parce que un éditeur c'est aussi un chef d'entreprise, c'est aussi quelqu'un qui est là pour faire du bénéfice. Enfin, je crois qu'il faut le dire clairement, à un moment donné, c'est quelque chose de très voilé, sous couvert de passion, etc. Et du coup, c'est assez difficile parce que nous, bien sûr, en tant qu'auteur, on a envie que notre roman trouve notre public, c'est tout à fait naturel. C'est leur travail de faire en sorte que notre roman, à un moment donné, soit dans le bon rayon et trouve les lecteurs. Mais il y a aussi tout le côté maintenant marketing, c'est-à-dire c'est la tendance ça, est-ce que tu veux pas écrire une romance parce que ça se vend bien, etc. Et du coup, il y a un moment donné où peut-être on peut être un peu perdu et où il faut vraiment garder sa boussole interne et savoir ce qu'on veut faire.
Je pense que le bon éditeur, c'est très simple. C'est quelqu'un qui comprend ce que vous essayez de faire et qui va ensuite vous accompagner pour servir ce que vous avez voulu faire au mieux.
Qui fait confiance à son auteur.
Et qui fait, voilà, tout à fait. J'ai eu d'entendre des déconvenues ou des choses un peu plus difficiles. Moi, ce qui est génial avec Critique, par exemple, c'est que quand j'arrive avec un projet, ils ne me disent pas « Ah non, tu comprends, parce que tout ça. » Ils me disent « Ok, comment on va faire pour que ça puisse se faire ?» Et ça c'est génial. Moi, j'ai développé un détecteur à oulala. C'est quand l'éditeur ou quand le partenaire commence à dire il faut que ce soit comme ça, sans expliquer. Moi, quand on me dit ouais, mais là, j'ai pas trop senti. Ma première réponse est ok, pas de problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas derrière? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Parce que c'est pas à l'éditeur de me dire ça va pas parce qu'il faudrait que tu fasses comme ça. Dis-moi quel est le problème que tu as. Après, c'est mon boulot de comprendre comment réparer le truc et de le faire à ma sauce d'une manière qui me convienne et qui soit cohérente avec ce que j'ai envie de faire. Je dis pas que ce qui est parfait, mon premier jet, n'est rien, loin de là. Au contraire, je pense que c'est ton boulot justement de pointer en quoi, où tu peux m'amener au-delà, là où j'ai pas pu. Je suis allé jusqu'où je pouvais aller, maintenant emmène-moi plus loin. Mais quand un éditeur me dit non, tu comprends, il faut que tu peux pas avoir un personnage âgé pour des jeunes parce que les jeunes, tu comprends, il faut que ce soit des personnages jeunes.
Ça c'est agaçant. Hein.
C'est
faux. Bah, Jules Verne, il y avait bien des. Enfin, c'était la littérature jeunesse. Les personnages étaient. Tu sais pas cette idée qu'il faut des jeunes pour des jeunes.
J'ai eu. Je tairai le nom et les circonstances, mais j'ai eu sur un texte qui a pas été pris. J'ai eu un retour assez surréaliste où l'idée d'une histoire avec un vieil agriculteur qui veut enterrer son cheval et il retombe sur des jazzmen de la Nouvelle-Orléans qui lui en fait lui font un enterrement joyeux et ça lui permet de voilà. Retour de l'éditeur en question. Ah mais non, mais un héros. Vieux, les jeunes, ils vont pouvoir s'identifier. Je dis, ah bon, ils n'ont pas de grands-parents, les mecs. Enfin bon. Mais par contre, le groupe de la Nouvelle-Orléans, c'est bien, mais ça se passe en France, tu ne veux pas le mettre ça aux États-Unis. Donc, des vieux, ils ne peuvent pas s'identifier, mais un truc pas dans leur pays, c'est bon. Je ne comprends pas la logique. Expliquez-moi. Et ils n'ont pas voulu m'expliquer.
Très intéressant l'identification parce que alors de nos jours il y a le alors maintenant 70% des lecteurs sont des femmes, voilà, donc il faut des femmes. Ouais. Et alors ça, enfin je sais pas vous mais moi je suis une fille, j'ai lu Harry Potter, j'avais pas de problème à m'identifier à Harry, quoi. Enfin, c'est ce parti pris de l'identification complètement narcissique, comme quoi on peut que se projeter dans nous-mêmes,
dans ce qui nous ressemble.
Bah voilà, alors qu'au fond justement le but de la littérature c'est d'aller dans l'altérité, d'aller dans
justement. On parlait de littérature jeunesse, je pense que c'était aussi le rôle à l'époque, c'est que par exemple on parlait de Jules Verne, c'était que les enfants se projeter dans des adultes. Donc si on leur projette leur propre miroir, après ça on dit, mais voilà, les enfants, voilà, ils ont pas de... Mais ben oui, si on leur projette le même, leur propre miroir à eux, on va pas les faire avancer, quoi, non plus. quelque part. Bien sûr que c'est intéressant parce qu'il y a des héros jeunes, il y a tout le moment de la métamorphose, il y a le moment, on va dire, de l'évolution. Donc c'est des romans initiatiques souvent. Mais ça n'empêche pas qu'il peut aussi y avoir des personnages adultes et que les enfants sont parfaitement aptes. Moi, je sais, quand j'avais 12 ans, j'ai lu les premiers livres que j'ai lus, c'était pour Patrie l'espace de Carsac ou des choses comme ça. Bah, c'était des adultes, les héros, quoi. C'était,
Je crois que les gens de notre génération, donc pas seulement, on a tous commencé par lire des romans adultes, donc effectivement, et on s'est identifié aux personnages adultes, ou voire, parce qu'on lisait, enfin, pour moi, j'ai lu beaucoup de science-fiction très jeune, je m'identifiais à un extraterrestre, ça ne me posait aucun problème, voilà, donc. Complètement différent. Et pour cette histoire d'identification et de lecteurs qui sont en réalité davantage des lectrices, eh bien voilà, moi toujours chez un éditeur récemment, j'avais voulu résoudre le problème en mettant comme héros un couple de jumeaux, un frère et une sœur. Et j'avais donc demandé à ce que cette altérité, les deux personnages puissent apparaître en couverture, mais à mon grand désarroi, parce qu'il faut quand même savoir que globalement, on n'a pas beaucoup de choses à dire, on ne peut que très rarement imposer ce qu'on veut en couverture de livre. Non, l'éditeur a décidé de faire apparaître en couverture que le personnage féminin, vraisemblablement au prétexte que les lecteurs sont des lectrices. Alors que, voilà, il y a bien, le livre a même raconté des deux points de vue, c'est parfaitement équilibré dans le récit, mais non, il n'y a que la fille qui apparaît en couverture. Voilà, il y a ces vieux réflexes qui tournent autour à la fois de réalité et de clichés, mais qui sont encore entretenus par les gens de la profession, hélas.
Je ne citerai pas de nom, mais il m'est arrivé chez un éditeur de proposer une histoire. Je travaille sur dossier, tu sais, j'envoie le dossier. Et puis on me dit, écrivez les deux premiers chapitres. Donc j'ai écrit les deux premiers chapitres, c'était avec un héros. Et donc, quand même, l'éditeur qui me réécrit, me dit, oui, mais en fait, ce serait mieux si c'était une fille. Vous ne voudriez pas changer oui, je peux, mais bon, pourquoi dites-moi, parce qu'il y avait aussi une fille dans le récit. Je veux dire, mais le héros principal, ce soit une fille. Parce qu'il considérait que ça marchait mieux en ce moment. Voilà.
Alors, justement, on est là sur l'aspect commercial du métier d'éditeur, et ça me permet d'élargir encore, puisque j'étais partie du moment où vous êtes tout seul face à votre page. Là, on a cet interlocuteur qui est l'éditeur. Le livre prend forme, il est imprimé. Il arrive en librairie et là arrive une nouvelle phase de votre travail qui est le travail de promotion et qui va donc passer par des dédicaces, la participation à des salons, des interviews, parfois, comme par exemple dans le cas de Lionel, ça peut être un passage dans une émission littéraire, enfin c'est peut-être pas d'ailleurs que le cas de Lionel, mais peut-être de la télévision, des interventions en radio, et qui vont amener des déplacements et qui vont faire que vous allez passer du temps à ça. Alors justement, quelle part de votre vie ça occupe, ça ? Quelles sont les contraintes que ça peut impliquer ? Est-ce que vous êtes très mobilisé autour de ça ?
Moi, pas mal. Ça fait par exemple depuis presque 2 mois que j'ai un salon tous les week-ends. Alors disons qu'on peut difficilement, je pense à l'heure actuelle, si on veut exister en tant qu'auteur, de toute façon, se passer des salons. Il faut bien dire une chose, c'est que les auteurs, alors en particulier fantastique ou jeunesse, on n'a pas de presse et on a très peu de médias. Donc ce qui veut dire que si on veut se faire connaître, moi je sais que par exemple mon succès, entre autres pour Le Galou, je l'ai fait en salon, c'était le premier livre que j'avais sorti, eh bien, on n'a que ça. C'est les salons, c'est quasiment le seul média qui nous permet de nous faire connaître, de rencontrer des lecteurs, parce qu'il faut bien dire que les libraires, quand ils reçoivent nos livres, ils reçoivent les diffuseurs, enfin les représentants. Les représentants, ils ont des listes longues comme des jours sans pain. Et nous, parmi là-dedans, par rapport aux gros auteurs, on est « Ah ben oui, il a ça aussi, mais bon, je ne sais pas ce que c'est. » Donc des fois, ils ne vont pas forcément le conseiller aux libraires. Si on veut se faire connaître des libraires, si on veut se faire connaître des gens, il n'y a que les salons et ce genre de rencontres, par exemple, ici aujourd'hui.
Oui, alors, il faut être réaliste. Quand on écrit de l'imaginaire en France, ce n'est pas qu'on est méprisé par le...
La jeunesse aussi.
C'est,
hein.
C'est qu'on est... Notre existence n'est pas connue
ce n'est pas de la littérature.
Des médias et autres qui s'intéressent pourtant normalement, soi-disant, à la littérature. Voilà. Nous n'existons pas, donc il faut effectivement battre la campagne.
Tu sais, j'ai eu cette réflexion d'un libraire une fois qui m'a dit quand même, quand on parlait de littérature et de fantastique, je disais, mais par exemple, 1984, c'est bien de la science-fiction. Ah non, ça, c'est de la littérature. Non,
voilà. Ah oui. Non, sinon, c'est pas de la science-fiction, c'est de l'anticipation. C'est comme quoi c'était pas assez. Ah bon, c'est pas la même chose. Non, par rapport au fait d'écrire de l'imaginaire, rapport aussi aux réactions quand tu dis ah tu fais quoi dans la vie, j'écris des bouquins. Ah bon, mais t'es connu. J'écris de l'imaginaire et je suis français. C'est deux excellentes raisons de pas l'être. On est en plus dans cette époque bizarre un peu concernant la promotion du livre. Alors on ne fait pas de la promo simplement pour flatter nos égos d'auteurs meurtris et maudits. Hein. C'est simplement parce que on écrit des bouquins quand même dans l'intérêt que ça puisse toucher des lecteurs. Et il faut simplement réussir à les porter à leur connaissance, ce qui n'est pas toujours facile. Et on est dans une époque un peu bizarre concernant la promotion, hein, au sens large, du livre, qui est que le livre, par essence, ça s'inscrit dans la durée. Pour entendre une chanson à la radio, ça prend 3 minutes, même en faisant autre chose. Une image vous frappe tout de suite. Un bouquin, il faut se poser pour le lire, et ça s'inscrit forcément dans la durée pour le consommer. Et c'est pas tellement à la mode de nos jours, les trucs qui s'inscrivent dans la durée. L'autre difficulté, c'est que vous sortez, même en étant extrêmement productif, c'est quand même assez difficile de sortir, je pense, plus de 2 bouquins par an, peut-être 3 si vous êtes vraiment chaud. Moi, c'est 1. Donc il y a tout ce temps où dans notre époque où il faut forcément on passe du prochain truc viral au prochain truc viral, la littérature ça fait un peu office de truc un peu qui encore une fois il peut se passer un an sans qu'il se passe rien, peut-être même davantage, surtout quand on retrouve, comme tu disais, la temporalité reliée à l'écriture. Donc je pense tous autant qu'on est et les éditeurs aussi avec nous, hein, on est confronté à ce dilemme là qui est: comment faire pour apporter un média qui s'inscrit dans la durée, dans une société qui est de moins en moins concernée par la durée? Alors, je pense que chaque auteur et chaque éditeur trouve sa réponse. Moi, ça fait longtemps que je suis sur Internet avec le blog, etc. Pas parce que je me préoccupe de promotion et tout, mais parce que ça m'éclate, parce que je suis un geek de première, et que jouer avec Internet, déjà, ça m'amusait, et que j'avais juste... Et là, à un moment, je me suis dit, mais largement après avoir mon blog, je me suis dit... mais peut-être que ça peut être un outil intéressant, mais c'était pas du tout pensé à la base. Et je le fais simplement à la base parce que ça m'amuse. Si ça m'amusait pas, je le ferais pas, et je pense que ça se sentirait aussi.
Alors sur la promotion, donc moi, comme j'ai démarré toute jeune sur Internet, j'avais mon forum de discussion quand j'avais 15 ans, dans lequel je mettais mes romans qu'on pouvait télécharger. Et la grosse surprise, ça a été que le jour où mon roman est sorti chez un petit éditeur, on a eu 150 précommandes de gens que je ne savais même pas qui lisaient mes livres, mais qui me suivaient en fait comme une communauté depuis longtemps. Donc ça fait très longtemps que je suis beaucoup sur Internet, donc les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, maintenant YouTube, mais parce que ça m'amuse. C'est comme ce que tu dis, c'est que je crois que quand on se force à le faire, de toute façon, les gens, ça les intéresse pas trop parce que le plaisir se sent et est contagieux, donc forcément, ça aide. Et sur les salons, c'est clair que j'en ai fait beaucoup aussi et que j'adore ça, mais au bout de 5 ans, j'ai eu vraiment des moments où vraiment, c'était dur, quoi. Alors que pourtant, j'aime ça. Et après une petite pause, y revenir avec beaucoup plus de sérénité et de plaisir. Mais c'est vrai que les salons, c'est un moment assez particulier. C'est des moments géniaux parce que comme on est solitaire, on rencontre nos lecteurs et ça, mais c'est une bouffée d'air fabuleuse. Mais justement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans ce déplacement, ça commence à bouger un petit peu en ce moment, mais on n'est pas rémunéré ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi un temps, à un moment donné, une énergie qu'on passe où en fait, on se rend compte en revenant le lundi qu'on est complètement crevé, lessivé, que du coup, on commence à se dire, comment j'articule
c'est
ça ?
C'est exaltant, mais épuisant.
C'est ça, exactement. Et alors après, sur la promotion, ce qui est intéressant sur ce que vous disiez sur les médias, donc moi, quand je publie littérature générale et fantasy, je vois un peu les deux. C'est clair que je pense que l'imaginaire reste niche en France, mais aussi parce que les éditeurs ne misent pas beaucoup sur les auteurs français, je crois qu'il faut le dire à un moment donné. Moi, j'ai quand même fait la matinale d'énergie, France Inter, etc. sur un bouquin qui est celui qui s'est le moins bien vendu. Donc tout ça pour dire que maintenant, ce qui est prescripteur, ça reste très très flou, on est dans une époque assez bizarre à ce niveau-là, et je peux vous dire que, par exemple, une vidéo YouTube d'une booktubeuse influente sur un de mes bouquins va m'apporter beaucoup plus de lecteurs que la matinale d'énergie. Enfin, ça paraît un peu dingue, mais je crois que maintenant, c'est un fonctionnement qui est là. Et sur la dernière chose sur la promotion, c'est que dans mon essoufflement, parce que j'ai publié beaucoup, ce qui donne l'impression de cette vitalité. Mais là, par exemple, la suite des stagiaires, ça fait presque 2 ans que je l'ai écrite. Ça sortira que l'année prochaine parce qu'en fait, j'ai fait un changement radical dans ma vie qui est que j'ai pris un agent littéraire, ce qui se pratique extrêmement peu en France, et que maintenant, j'ai décidé en fait de ne plus signer des contrats qu'à vraiment des bonnes conditions et à me battre plus, à être plus dans la confrontation, même si c'est pas facile, pour dire pourquoi sur des auteurs étrangers vous donnez 2 fois plus de pourcentage et 5 fois plus d'argent que les auteurs français qui sont des auteurs qui eux vont faire toutes les conférences, vont se bouger pour vous gratuitement, parce qu'en fait ce travail de promotion qu'on fait nous quelque part avec nos 6 à 7% sur certains livres, c'est presque démentiel, quoi.
Non, puisque les gens se rendent pas compte. Alors d'abord, un, nous adorons, enfin moi en particulier, et je pense que ce que disait Samantha, on adore faire des salons parce que c'est là où on rencontre nos lecteurs, c'est là qu'on a le retour sur nos livres. Les gens qui viennent nous voir, qui disent j'ai aimé vos livres, etc. C'est merveilleux pour un auteur, il n'y a pas de plus belle récompense. Mais en même temps, il faut quand même voir qu'on prend du temps sur la vie, des fois avec nos familles, avec les gens qu'on aime. Et donc, c'est vrai que c'est du travail. Comme on disait, c'est très bruyant, c'est exaltant, on est très heureux, mais on sort, on est lessivé. Effectivement, je sais que les jours d'après, généralement, un ou deux jours après, on est là, on travaille au ralenti quand même. Donc, et puis bon, bah, par exemple, moi, je sais pas, je viens du Cantal, c'est pas évident, je mets une journée pour monter, une journée pour descendre. Donc, deux jours ou trois jours de salon, c'est cinq jours mobilisés. Des jours où on ne travaille pas, justement, où on prend du retard sur notre travail. Ça fait partie du travail. Comme je disais, c'est quelque chose de merveilleux. C'est des moments merveilleux. Mais c'est comme un acteur quand il fait son show, quoi. C'est pareil. C'est après.
Et je veux ajouter là-dessus, en fait, que quand je parle de ça, c'est assez tabou. Je me suis rendu compte parce que je publie pas mal d'articles en ce moment sur l'agent littéraire et je sais que ça fait un peu de remue-ménage. Parce que. C'est impudique de parler d'argent en rapport avec la culture, en rapport avec la créativité. Mais dans le fond, c'est simplement reconnaître notre statut, qui est que oui, on fait un travail.
Ça, c'est en France. Hein.
Oui, en France.
Les Américains,
on est d'accord.
Les Anglo-Saxons,
c'est peut-être pour ça qu'ils ont des agents et pas nous. Hein. Mais qu'au fond, bah, c'est simplement reconnaître que bah, on fait un travail, on a fourni quelque chose et c'est tout, en fait. C'est tout ce qu'on dit à ce moment-là, quoi.
Et puis ce travail rémunère d'autres personnes aussi. Donc,
Alors, je voulais aborder juste un dernier aspect parce que je vois qu'on est bientôt arrivé à la fin du temps qui nous était imparti, mais j'avais aussi envie de parler de ça assez rapidement. Bien souvent, vous êtes auteur donc à plein temps puisque c'est votre métier, mais il y a aussi des petites choses additionnelles qui vont aider à faire bouillir la marmite. Et je pensais notamment soit à des activités qui sont en lien direct avec l'écriture, et je sais que certains d'entre vous font des masterclass, animent des ateliers d'écriture, interviennent dans des collèges, et ça permet de, là aussi, ça peut être des interventions rémunérées qui apportent un petit plus. Et certains ont aussi d'autres activités annexes, soit pour se vider la tête, soit pour s'enrichir, aborder un autre domaine. Je pense notamment à ta participation au Deep Ones. Donc, j'aimerais que vous nous en touchiez trois mots pour qu'on puisse découvrir qu'un auteur, c'est aussi quelqu'un qui est multifacette et qui fait d'autres choses qu'écrire, même si ça reste en lien avec son métier primaire.
Oui, bon, pour ma part, ce sera rapide. C'est essentiellement des rencontres en milieu scolaire. Bon, déjà, c'est un milieu dans lequel je suis à l'aise pour y être passé moi-même, être marié à quelqu'un qui est toujours dans le milieu scolaire, etc. Et puis, alors même si c'est différent par rapport à un salon, puisque là, on pourrait dire le jeune public qu'on rencontre, il est captif, effectivement, mais c'est un moyen de rester en phase avec... C'est bon, j'ai un certain âge à présent, je ne suis plus ado depuis belle lurette, mais ça me permet de rester au contact de l'adolescence qui est une partie de mon public, et puis de rencontrer, d'échanger. Et pour l'aspect, effectivement, et c'est aussi pour l'aspect matériel, effectivement, puisque ça représente, je ne sais pas, selon les années, à peu près... un tiers à la moitié de mes revenus. Voilà.
Non, je reviens un peu, en plus j'en profite pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure concernant, alors quand on dit qu'on écrit tous les jours, effectivement c'est un muscle, mais effectivement de temps en temps il faut laisser le muscle refroidir, sinon il finit courbattu. Pour ma part je fais de la traduction littéraire aussi, on est très nombreux en auteurs d'imaginaire en fait à vivre de notre plume au sens entre guillemets large, c'est-à-dire l'écriture plus la traduction, qui en fait est un excellent outil pour continuer à écrire sans réfléchir à l'histoire, etc., donc à vraiment faire un travail pur du texte et du style. Pour moi, la traduction a été une école d'écriture, de stylistique, de travail sur le matériau qui a été extrêmement, extrêmement formatrice. Surtout que je suis passé notamment entre les mains des correcteurs de la Talente qui sont parmi les plus exigeants. Et donc ça, c'est même quand j'écris pas, j'écris en fait quelque part. Et puis après il y a tout un tas de choses effectivement en rapport avec l'écriture, donc on a toujours dans l'optique d'essayer de transmettre, il y a les ateliers masterclass que je fais quand on m'en demande, et puis là depuis quelques temps, donc tout un tas de choses autour de le fait de transmettre l'écriture qui sont aussi des choses intéressantes à expérimenter aussi de nos jours avec la convergence des médias, c'est comment est-ce qu'on peut amener de l'écrit sous d'autres formes. Il y a les Deep Ones, par exemple, qui est un collectif géométrie variable de musiciens et auteurs, où on fait des lectures en musique ou de la musique en lecture, ce qui permet dans des représentations de porter l'écrit d'une façon qui est différente à un public. Et puis... Bon, je participe aussi au milieu du jeu vidéo, donc ce qui me donne maintenant un truc vachement bien quand on me pose la question, mais c'est quoi ton vrai métier à côté d'écrire ? Je peux dire, je fais de la musique pour des jeux vidéo. Et quand on me dit, mais tu fais de la musique pour des jeux, c'est quoi ton vrai métier ? J'ai dit, j'écris des bouquins. Qui à la fois toujours reste dans le fait, la musique pour moi c'est un très bon aussi, une très bonne façon de pour reprendre la métaphore du muscle, hein, qui est très juste, c'est l'écriture, je fais travailler les jambes, la musique, je fais travailler le haut du corps. Donc ça me permet de créer des trucs, qui est quand même un peu, je pense, le fait qui résumerait mon plan de carrière, c'est créer des trucs.
Alors pareil, évidemment, les interventions scolaires, ce qui est vraiment, c'est des moments géniaux, quoi. Enfin, les élèves qui étudient les livres, et justement ce que tu disais sur rester en proie avec le réel, voire les jeunes de nos jours, entre guillemets. Il y a une autre chose, du coup, alors moi, dans ma lutte de mes conditions plus justes, c'était pas juste pour embêter mes éditeurs, c'est qu'en fait, je voulais avoir plus une sérénité dans ce métier-là pour faire d'autres choses. Donc par exemple, je donne des ateliers d'écriture dans une école vraiment difficile du 13e arrondissement. Et à côté, en même temps, je suis scénariste pour le cinéma, donc c'est quand même un espèce de métier de contraste où je suis avec des petits le vendredi qui sont hallucinants, enfin qui sont à la fois inquiétants et en même temps ils sont d'un naturel complètement fou, qui ont quand même pas des problèmes de discipline assez fortes. Hein. Faut dire que c'est très très difficile, même à 8 ans, on se dit oh là là, ils sont en train de se battre. Bon bah voilà, atelier d'écriture, séparer des enfants qui se battent, voilà, ça commence bien. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir tous ces aspects-là. Et dans l'engagement, petit à petit, donc maintenant je suis bénévole pour Amnesty International aussi, donc on essaie de trouver des moyens de travailler ensemble pour essayer qu'en intervention, je véhicule aussi certains de leurs messages sur ce qu'ils sont en train de mener actuellement comme combat. Donc ça permet tout ça de trouver un équilibre et de dire que l'auteur peut aussi, enfin c'est pas qu'un ermite voilà qui écrit de son côté, il peut aussi être une forme d'acteur social en quelque sorte et qui est présent sur le terrain pour parler de ce que c'est que raconter une histoire, que l'imaginaire et ce que c'est finalement que d'être un être humain, quoi.
C'est très juste, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur le fait que l'écrivain, c'est pas un ermite. Moi, quand je fais du volontariat écologique, il y a un truc hyper salutaire pour un auteur, c'est que vous arrivez dans un endroit où personne ne sait ce que vous faites et tout le monde s'en fout. Et ben, c'est hyper salutaire et ça fait le plus grand bien.
Alors bon, ben on disait tout à l'heure que finalement, en France, c'est pas beau de parler d'argent. Alors moi, je suis peut-être l'auvergnat du groupe, alors je vais parler d'argent. Quand on parlait des interventions scolaires, je dis par exemple, pour vous donner une idée, une journée d'intervention scolaire rémunérée au tarif de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, c'est à peu près 400 euros, hein, quelque chose comme ça. Songez que pour un livre que vous allez mettre 6 mois à écrire, des fois les avances ne vont pas plus loin que 1500 ou 2500 euros. Ce qui veut dire que, concrètement, 5 interventions ou 4 ou 5 interventions vous rapporteront autant que le livre que vous voulez mettre 6 mois à écrire en 4 jours, ben vous en rapportez autant. Il y a quand même une espèce de grand écart entre les deux qui en devient presque des fois un peu grotesque. On est là où on se dit, mais en 4 jours de travail, je vais avoir touché autant que quand j'ai écrit un livre pendant 6 mois. Donc ça laisse songeur, quelque part.
Eh bien, je pense que ça va nous servir un petit peu de conclusion, puisque nous sommes arrivés au terme de notre intervention. Donc je remercie les 4 auteurs présents qui nous ont donné des informations très intéressantes. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses sur ce que c'est qu'être un écrivain et que vous êtes un tout petit peu passé de l'autre côté de cette barrière qui était juste de les voir en signature et que vous les avez un peu découverts. Je vous encourage à passer les voir à la Bulle du Livre pour continuer à discuter avec eux, pour vous faire dédicacer des ouvrages, soit maintenant, soit jusqu'à la fin du salon. Et merci pour votre attention.